Couture.
Il m'inspire, là.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Le deux de misère.
Le mid. Radio X.
Ouais, il va-tu avoir un référendum avec le Parti québécois aux prochaines élections? Parce que là, ce qu'on voit, là, c'est PSPP, Paul Saint-Pierre-Plamondon, le chef du Parti québécois, qui donne une entrevue au Journal de Québec aujourd'hui. Puis lui, il dit que la prochaine élection, c'est pas une élection référendaire. Ben, je m'excuse, c'est parce que hier, il a dit qu'il va avoir un référendum, mais un petit peu plus tard dans le mandat de 4 ans. Là, on joue les mots.
Puis quand nous autres, on disait qu'il reculait, on s'appelle nous dire qu'on n'a rien compris, il recule pas, il va le faire. Là, c'est un ou l'autre. Là. ça va être un ou l'autre, les gars. Là. Ça sera pas les deux en même temps.
Exact. Voilà. Le food professor est là.
Voici le food professor Sylvain Charlebois.
Sylvain, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Oui, ça va bien. Est-ce qu'on a un deal? Deal or no deal?
Écoute, on a un sursis de 3 jours. C'est ce qu'on a appris à matin. C'est sûr que je m'intéresse plus aux médias américains parce que ça a l'air que ces temps-ci, on apprend plus des médias américains sur le Canada que
pas juste
des
ces médias canadiens.
Puis en plus, tu sais, il y a des gens, j'entendais ce matin à Radio-Canada, bon, on va attendre ce que M. Carney va dire, mais on a vu ce qui est arrivé avec le pont Gordie Howe, il nous a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Fait que, tu sais, c'est là que ça devient difficile de prédire, mais ce que j'entends sur le terrain actuellement, c'est que il y a des concessions au niveau du lait, au niveau de la gestion de l'offre, dans le sens que, tu sais, on n'a pas livré la marchandise par rapport à la première entente de 2020, hein, on a émis des quotas d'importation, mais on n'a jamais importé autant de produits américains comme on était supposé, parce que les quotas ont été octroyés à des entreprises qui ne voulaient rien savoir d'augmenter la compétition. Fait que c'est sûr que les Américains sont un peu frustrés. L'autre problème, c'est la classe 7. Tu sais, la classe 7 avait été créée en 2015... pour permettre à nos producteurs de lait d'ici d'offrir une protéine abordable à nos transformateurs comme Saputo, Lactalis.
Ouais.
Et les Américains n'aimaient pas ça, là, parce que évidemment ça crée de la compétition. On voulait justement avoir accès à un marché canadien qui était fair, là, finalement. Mais c'est ça. Donc, en 2020, on avait promis de mettre fin à la classe 7, mais c'est pas ça qu'on a fait. On a renommé la classe 7 classe 4A. Même chose. Fait que c'est pour ça que quand j'entends différentes analystes dire ben on comprend pas pourquoi les Américains sont fâchés contre nous, ben c'est la raison pourquoi. Et c'est pour ça que le 50% a été mis de l'avant le 19 juillet pour le 19 août.
Ouais. Aujourd'hui. Mais ça a été bien expliqué au Canada anglais, mais dans les médias québécois, moi j'ai pas vu ça, là. J'ai pas grand monde qui nous ont parlé.
Moi je sais. Puis j'explique dans les affaires. Dans mon article dans les affaires aujourd'hui, j'explique, je présente les 10 mythes par rapport à la...
C'est capoté aussi, ça aussi. J'ai lu ça ce matin, là. c'est la gestion de l'offre qui devait protéger le secteur laitier, là. Je veux dire, depuis plusieurs années, c'est l'hécatombe, là.
Oh oui, absolument. Puis là, j'ai posté mon article sur Facebook il y a 2 heures, puis j'ai à peu près 30 000 vues déjà. Fait que c'est sûr que les gens s'intéressent à des choses qu'ils ne savent pas. Hier soir, justement, je soupais à
C'était
Montréal
pas fait... on était inquiets, là. Moi, j'ai dit, on va se faire kidnapper.
Ben oui, parce qu'à chaque fois que tu nous parles, on a reçu des messages là, de gens dans le milieu laitier, que tu connais rien, puis moi, y apprendre la vie, moi, tu vas voir.
Je fais preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est le langage de l'UPE, ça. Malhonnêteté intellectuelle, il aime ça dire ça. Sans s'enfarger dans les syllabes, là. Mais tu sais, hier soir, là, tu sais, j'ai eu un beau souper avec un producteur de lait. Puis écoute, les producteurs de lait, c'est pas des caves, là. Ils savent qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est que la fédération en lien à l'Union des producteurs agricoles, vend au public, vend à ses membres que tout est beau, tout va bien. La gestion d'offre est nécessaire, il n'y a aucun changement nécessaire, mais dans les faits, les producteurs, là, surtout les plus jeunes, là, ceux qui ont 45 ans et moins, là, eux, avec des enfants, eux autres s'inquiètent de l'avenir, puis ils voient là, que il y a des problèmes. Là, on gaspille du lait. Trump fait ce qu'il y a avec nous. Il utilise la gestion de l'offre comme levier contre nous.
C'est ça.
Moi, j'ai toujours dit la gestion d'offre, puis je pense que Frank est en désaccord avec moi, mais moi, la gestion d'offre, pour moi, ça nous empêche justement d'explorer de nouvelles opportunités ici et ailleurs.
Ben, on pourrait exporter notre lait là, de façon plus importante, notamment du côté de l'Asie, mais ça, on ne veut pas le faire. Ouais. Donc,
Exactement, parce qu'on est vraiment, tu sais, on est obstiné à protéger le marché et c'est tout. Puis pendant ce temps-là, tu sais, il y a des aberrations comme la Chine qui investit en Ontario, on bâtit une usine de transformation laitière, on transforme notre propre lait pour faire du lait pour nourrissons, pour vendre en Chine. Puis Coca-Cola qui est arrivé en Ontario aussi, qui a bâti une usine pour Fairlife, un lait qui est sans lactose. Tous ces projets-là auraient dû être canadiens et même québécois, là.
Fait qu'on s'enferme, on s'enferme dans un système, puis là, il y a d'autres mondes qui viennent se greffer à ça, puis qui commencent à profiter de ça.
Moi, le point que je faisais, Sylvain, là-dessus, c'était que ça nous oublie. La défense de ce système-là nous fait tenir un double discours qui devient un peu ridicule dans le cadre de négociations. C'est-à-dire qu'on dit aux Canadiens, les Américains, c'est des dangereux. Pourquoi? C'est des protectionnistes. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait concéder? Ah non, surtout pas un système qui nous protège de la concurrence étrangère. Ouais, mais tu viens de m'admettre que toi aussi, tu n'es un protectionniste.
Ah oui, absolument. Puis quand on regarde les données de l'OMC, souvent les gens disent « Ouais, mais les Américains subventionnent à outrance leur filière laitière. » Mais quand tu regardes les données de l'OMC, il est clair que le Canada supporte davantage directement et indirectement sa filière laitière. Alors, c'est pour ça que à mon avis, puis si je disais au producteur de lait hier soir, Frédéric Pépin, tu sais, je pense qu'il va falloir avoir un débat honnête sur comment on va supporter notre filière laitière. Parce que c'est sûr que si on décide de libéraliser le marché, il va y avoir des perdants, puis il va y avoir des gagnants. Si on veut mener une bonne production, il va falloir la supporter d'une façon ou d'une autre.
Mais moi, je vois
ayons,
pas.
Ayons cette discussion-là. Là.
Mais je vois pas une ouverture totale du marché là. On va concéder un peu, peut-être, pour d'autres choses. Mais on va continuer avec notre gestion de l'offre dans les prochaines années.
Actuellement, on passe d'une crise à l'autre sans penser à développer une feuille de route sur 20 ans.
Oui, exactement.
C'est ça qu'il nous faut.
Exactement.
Il nous faut une feuille de route sur 20 ans. C'est ce que l'Australie a fait. C'est ce que la Nouvelle-Zélande, la Corée l'a fait aussi.
Ouais.
L'Angleterre, l'Europe. J'ai passé un an en Europe en 2015 avec la fin de leur gestion de l'offre pour étudier comment que les producteurs laitiers gèrent la fin de la gestion d'offre, puis ils sont encore là aujourd'hui. Là.
Ben écoute,
11 ans plus tard, là, ils réussissent bien.
Moi, je pense que ça va être long, parce que tu as vu qu'avec Post Canada, comment ça a été long, puis c'est pas encore fini. Là. Fait que moi, je vois pas ça. La gestion de l'offre, ça va être là pour des années encore. Il n'y aura pas de politicien capable de casser ça au Canada.
Écoute, le 25 ans, là, dès que j'écrivais une chronique dans la presse contre la gestion de l'offre, je me faisais menacer. Je recevais des courriels, je recevais des téléphones.
Mais ton boss te protégeait à l'époque, ton boss, le patron du média, là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais aujourd'hui, là, Pierre, là, regarde sur les réseaux sociaux.
Oui.
Va sur ma page Facebook, là, il y a du monde qui disent « ça n'a pas d'allure, il faut changer ça ».
Mais les politiciens vont conserver ce régime-là tant aussi longtemps qu'il y aura du lobby très fort de la part des producteurs de lait, là.
Mais tu sais, les politiciens protègent un système qu'ils ne comprennent pas. Mais ils ne veulent pas l'avouer.
Mais là, tu disais...
C'est un système qui est compliqué, là.
Tu disais, Sylvain, la rumeur, c'est que Carney ferait des concessions. Ça pourrait être quoi? Parce que là, on dit, c'est-tu le tarif, les tarifs sur les produits à l'étranger ou c'est comme on permettra un certain quota, un peu comme on voulait faire en 2017? Ça peut, parce que là, il y a plein de monde qui se demande c'est quoi ces concessions-là, là.
Oui, non, effectivement. Mais le parti politique qui a, à mon avis, la responsabilité idéologique à faire quelque chose, c'est le Parti conservateur du Canada. Puis avec Harper, il y a à peu près, moi je dirais, 20 ans, là, 15-20 ans, on considérait, parce qu'on avait mis fin à la Commission canadienne du blé, qui est une autre aberration qui affectait l'Ouest canadien. On a mis fin à ce cartel-là, finalement. Mais pour ce qui est de la gestion d'offres, on a décidé de reculer. Jason Kenney, qui est l'ancien premier ministre de l'Alberta, moi, puis lui, on a eu un échange sur X. Je ne sais pas si vous avez vu, là, messieurs.
Oui, il est rendu compte, lui, là.
Il est rendu compte. clairement, mais ce que je savais pas, c'est qu'il était encore contre quand il était élu, mais il l'avait pas dit publiquement.
Ah oui. Ils sont toujours bons quand ils sont plus là. Hein?
Ben, je lui ai reproché ouvertement sur X en disant, ben Jason, tu sais, where were you? Où est-ce que tu étais, tu sais, à l'époque quand tu étais élu? Fait qu'il y a beaucoup de ça actuellement. Il y a un manque de courage, mais on sait bien que si quelqu'un est élu et met ses réserves par rapport à la gestion d'offres, il y a un prêt à payer.
Ah non, il se fait ramasser par son parti, voilà. Hey, l'inflation alimentaire, on a eu des chiffres sur l'inflation et ça baisse au Québec.
Ça baisse, oui.
Tant mieux.
On est à peu près à 2,5 %. C'est quand même pas si mal. C'est sûr que le comptoir des viandes est un problème. Encore là, on parle de lait. Le comptoir, la section laitière à l'épicerie, quand même, ça va assez bien cette année. C'est quand même assez stable. La boulangerie aussi. Mais le surgelé nous surprend un peu. C'est plus cher. Le maraîcher nous aide beaucoup cette année. Là, évidemment, avec l'annonce de ce matin, le dollar est en hausse. Ça va nous aider pour l'importation parce qu'on importe quand même pour quoi? 45-50 milliards de dollars de produits alimentaires à chaque année. Fait que tout ça fait en sorte que ça va être un petit peu plus facile. C'est des bonnes nouvelles finalement, mais quand tu regardes le taux d'inflation alimentaire canadien, on est à 3,1 % et ça fait 18 mois consécutifs que le taux d'inflation alimentaire est supérieur à l'inflation générale. C'est la 7e série la plus longue depuis 50 ans.
T'expliques ça comment? La réglementation complètement folle, taxe carbone?
Il y a un contexte de structure, barrière interprovinciale. Il y a eu le dollar qui nous a pas aidés. Il y a aussi la bureaucratie. Au niveau de la transformation alimentaire, ça m'inquiète beaucoup. T'sais, il y a eu un recul. Quand tu regardes la productivité en production, en transformation alimentaire, il y a eu un recul de 5,8 % depuis 18 mois, depuis que président Trump est au pouvoir. Là.
Ouais.
Pendant que notre secteur de transformation s'est contracté de 5,8 %, aux États-Unis, il y a eu une augmentation. Les tarifs que Trump émet ne créent pas d'emplois dans le secteur de la transformation. Par contre, et ça, il y a une logique à ça, on incite les manufacturiers aux États-Unis à être plus productifs. Ça fait du sens parce que si tes intrants coûtent plus cher...
Faut que tu coupes à quelque part, ouais, c'est ça.
Faut que tu forces, exactement. Faut que tu coupes à quelque part. Du côté américain, là, le régime Trump est en train de transformer la transformation en étant plus productif.
L'IA, on pousse l'IA beaucoup, ce qu'on ne fait pas ici.
C'est ça, la robotisation. Ouais. Il y en a quand même un peu. Tu sais, j'en ai visité dans la région de Québec, là, de belles usines qui se sont modernisées, mais il n'y en a pas suffisamment. Puis ça vient qu'à nous coûter plus. Cher.
Oui, mais nous autres, on va avoir des épiceries publiques, Sylvain. Ça va faire baisser le prix des aliments.
Hey, boy.
Tu vas pouvoir aller à cette épicerie-là, payer comme contribuable et comme consommateur.
Oui, tu vas avoir une double part à jouer là-dedans. Hey, restauration, tu nous avais dit en début d'année qu'ils pourraient fermer 4000 restaurants. Finalement, ça va être moins pire qu'on le pensait.
Ça va être moins pire, tant mieux. Écoute, mais on va avoir une perte nette, là. T'sais, on pensait de perdre 4000 restaurants nets au Canada. On a révisé nos pronostics parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, nous. On est à près à 2500. Là. Je suis certain que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs restaurants fermés dans la région de Québec. D'ailleurs, il y a un restaurant dans le Vieux-Québec qui a attiré mon attention. C'est un restaurant qui opérait depuis 70 ans, qui a fermé récemment.
Ouais, le petit coin breton.
Le petit coin breton, exactement.
Ça calcule-tu les ouvertures de restaurants pour compenser les pertes ou c'est
non,
les pertes
seulement? On parle de 2500 net.
OK. Parce que moi, je vois beaucoup de restaurants. Je vois des vieux restaurants fermés avec des vieux modèles d'affaires, puis je vois des nouveaux restaurants ouvrir avec des jeunes où là, on est moderne.
C'est ça. Nous, on essaie toujours d'estimer le nombre de restaurants en bout de ligne à la fin de l'année. Est-ce qu'on va perdre des restaurants ou est-ce qu'on va en gagner? Okay. On en voit plus par rapport aux ouvertures et fermetures. Là. Donc, au début de l'année, on pensait devoir le nombre de restaurants nets diminue de 4 000. Là, on parle plutôt de 2500. Okay. Ce qui est une perte, là, mais quand même, c'est pas aussi pire qu'on pensait.
Donc, ça se consolide, mais aussi, regarde les taxes, les municipalités, tout ce qui est coût afférent, c'est comme débile. Là. Les restaurateurs, à un moment donné, ils font l'équation, puis ils disent « Non, je vais faire d'autres choses. »
Ben, c'est ça. Bien, il y a beaucoup d'incertitudes, puis les gens font attention à leur budget. Fait que c'est sûr que pour ce qui est du discrétionnaire, là, c'est pas évident. Là. Puis, veux pas, là, quand tu arrives au restaurant, si t'es pas hâte de vendre à une table du vin, un dessert,
l'alcool, oui, c'est ça.
T'sais, puis les gens boivent moins, là. Fait que c'est plus difficile de rentabiliser pour ce qui est de la fine cuisine, le fast casual, comme on dit, t'sais, tous les restaurants à service, là. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'argent qu'avant. Dans le fast-food, il y a un resserrement aussi. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les derniers résultats de McDonald's. Chez Tim Hortons aussi, ça ne va pas très bien. RBI va bien en raison de Popeyes et Burger King. Restaurant Brands International, qui est l'entreprise maîtresse de Popeyes, Burger King et de Tim Hortons. Tim Hortons ne va pas bien, là. Vraiment, là, on voit beaucoup, beaucoup de fermetures, là, malheureusement. Là. Mais eux, ils payent pour le fait, en raison du fait qu'ils ont engagé beaucoup, beaucoup d'immigrés, là, des travailleurs étrangers. Et cette image-là, vraiment, colle à Tim Hortons, puis ça leur fait mal.
Ah, peut-être en terminant, on parle du prix au restaurant. Une des affaires qui fait que ça coûte cher, aller au restaurant, c'est l'alcool. Une proposition qui est tombée un peu entre deux craques la semaine passée, mais le PQ est arrivé en nous disant que eux, s'ils étaient élus, voulaient permettre aux producteurs québécois de vendre directement au restaurant. Là. C'est-à-dire tu fais du vin, du gin, peu importe. Ça, penses-tu que ça pourrait avoir un impact intéressant pour la facture des consommateurs?
S'ils sont pas forcés à charger une taxe.
Oui, c'est ça, parce que là, tu as le monopole de la SAQ là-dedans, mais c'est une manière de s'y attaquer un peu de manière contournée. Là. Si on dit qu'ils peuvent vendre directement leurs produits au restaurant.
C'est ce qui tue le marché du vin, c'est les taxes. T'sais. C'est incroyable là, comment ça coûte cher. Fait que c'est sûr que si on rend le produit plus compétitif, plus abordable, moi, je pense que ça crée un circuit intéressant pour nos vignobles, c'est sûr. Puis si on veut justement aider à nos vignerons québécois de prendre l'expansion. On le vit en Ontario, hein, pendant des années, là, le vin ontarien là, des années 70-80 n'était pas buvable. Il n'était pas buvable, mais on a décidé de faire de la promotion, on a rendu le produit accessible, abordable pendant des années. Là. Et aujourd'hui, vraiment, en Ontario, que ce soit au Prince Edward County ou à Niagara-on-the-Lake, là, il y a vraiment un secteur formidable qui s'est développé.
Mais je suis pas sûr
que, la consommation domestique.
Mais je suis pas sûr qu'au Québec, on soit rendu à côté l'Ontario dans le vin. Là. On a encore du chemin à faire, selon moi.
Je reçois ma famille à Noël avec du vin québécois, puis ils me disent toujours « Pourquoi tu fais ça? »
C'est pas vrai.
J'essaie de supporter le local. Là, mais là, je commence tranquillement à amener du vin de la Nouvelle-Écosse là, pour...
Josh,
pour
il y a des bonnes... Ouais. Sylvain, c'est toujours un plaisir, Sylvain Charlebois, le fou professeur, merci beaucoup.
Salut!
Bye.
Voilà, Sylvain Charlebois, il ne nous a pas parlé du lait 6%, mais il y a ça aussi, il y a du lait 6% qui arrive sur les tablettes au Québec. Ça s'en vient.
Ça là, doit passer croche dans la gorge un peu, par exemple. 6%, là...
C'est gras, là, c'est sûr, mais là, le monde cherche des protéines. Hein? Fait que là, c'est la grosse mode. Là, t'as du 6, 7 grammes, 9 grammes, 12 grammes, 13 grammes de lait.
Ouais.
De protéines dans le lait. T'as aussi le cottage, le fromage cottage, qui est très populaire.
Ouais, le monde se bat pour ça à l'épicerie, quasiment.
Là. Exact, il en manque, là. On le voit. C'est des influenceurs. On boit du lait à 6%. En Ontario, je pense qu'il est là depuis un certain temps. Puis là, c'est du cottage. Voilà. Hey, après la pause, Frank, tu vas débarrer?
Ah ouais, écoute, j'ai une pile en avant de moi. Là. C'est pas les sujets qui manquent. On parle de ça au retour.
On revient.
Couture.
Oui.
Dans le mid.
On revient dans pas long.
Radio X.